Alors, il y a quelques années, il y a quelques temps, j'ai acheté un livre pour lequel son titre m'interpellait. Le livre s'appelle « Je choisis de pardonner ». C'est l'histoire vraie d'un couple missionnaire américain vivant en Autriche au moment des faits. Un soir, Diane, la femme, apprend par un coup de téléphone que leur fils, Tim, a été victime d'un meurtre en Californie. Les détails qu'ils vont avoir par la suite vont confirmer cette triste nouvelle. Tim a même été une victime innocente dans l'histoire, puisqu'il a été pris à tort comme un amant, alors que ce n'était pas le cas. J'ai conscience que je commence ce message et ce que je veux vous dire par une histoire pas simple, mais je crois qu'on doit regarder la réalité du monde comme il est vraiment, et pas avec des lunettes faussées. Je pense qu'on ne doit pas se voiler la face, mais savoir que face à ce genre de situation, il existe des réelles réponses, empreintes de justice et d'amour, montrant toute la puissance de Dieu. Et je vous invite justement, sans plus attendre, à ouvrir ce matin votre Bible, si vous en avez, sinon le texte s'affichera, dans un des discours les plus impactants de l'histoire. On l'appelle communément le Sermon sur la montagne. Et on est dans une série depuis quelques dimanches sur ce sermon-là. Alors aujourd'hui, on continue notre série dans ce discours et on va lire le chapitre 5 des versets 38 à 48. Donc Matthieu, chapitre 5, des versets 38 à 48. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. » En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est la fin de la lecture de notre texte. Alors, l'histoire de Diane, cette mère dont je vous racontais ce qu'elle a vécu au début, elle est étroitement liée avec ses enseignements de Jésus. Là, le texte que nous venons de lire, c'est Jésus qui parle toujours. Et on va voir pourquoi, dans les prochaines minutes ensemble, pourquoi son histoire, elle est liée avec ce que Jésus raconte ici. Je vous propose ce matin de voir en deux points notre histoire. Le premier point, on va voir les versets 38 à 42 surtout. On va voir en quoi c'est une réponse surprenante de Jésus face au mal. La réponse surprenante de Jésus face au mal. La première chose qu'on pourrait dire, ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais depuis deux messages déjà, les deux derniers messages, on voit dans notre série sur le sermon sur la montagne, que Jésus commence régulièrement ses phrases par « Vous avez appris qu'il a été dit » et il ajoute ensuite « Mais moi je vous dis que ». Vous pouvez voir dans vos Bibles, juste avant notre passage, il a régulièrement dit ça. Au total, je crois que ça revient 6 fois. Et on retrouve, nous, dans notre passage aujourd'hui qu'on a lu, au verset 38 et au verset 43, ces choses-là. Et je me suis posé la question de ce que cela apprenait sur lui, sur Jésus, sur Dieu. Qu'est-ce que ça nous apprend? Mais justement, Jésus, il est en train de démontrer ici son autorité sur les Écritures. Il n'est pas en train de venir modifier la loi de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. mais il est vraiment en train de l'accomplir. Il vient l'accomplir car il montre ici qu'il agit comme Dieu. En réalité, il n'a pas volé son autorité, mais il l'avait dès le début, dès le commencement. Et là, il est en train de montrer qu'il est lui-même Dieu. Dans sa vie sur terre, il va apporter des enseignements qui vont montrer aux hommes le chemin d'accès à Dieu. On va remarquer que lui-même est le chemin d'ailleurs. Lui-même est le seul chemin. Mais surtout, c'est parce qu'il était Dieu. Il est allé mourir pour sauver l'homme du péché, comme les prophéties de l'Ancien Testament l'avaient annoncé. On verra encore un peu plus tard tout ce que je suis en train de dire là. On va développer tout ça. Il y a aussi le point que Jésus est en train de montrer son autorité, mais une autorité qui n'est pas autoritaire. Et c'est deux choses différentes. On peut placer notre confiance dans les explications de Jésus à propos de la justice, car on voit à travers ses paroles à quel point il ne cherche pas à voler une autorité, ni à imposer une vision autoritaire parmi ses contemporains. Il est en train d'expliquer comment rendre une justice qui va marquer profondément les consciences des personnes qui seront bénéficiaires de cette justice. Il est en train de montrer une justice, la réelle justice. Jésus veut instaurer une paix totale, même dans des situations qui semblaient les plus compliquées. Et dans notre passage, je crois que c'est pas évident. Et Jésus rejette par-dessus tout la vengeance. Son autorité rejette la vengeance. Dans le plus grand discours de Jésus qu'on retrouve dans la Bible, c'est-à-dire celui sur la montagne, le sermon sur la montagne, là, la vengeance n'a pas sa place. Nulle part, et pour aucune raison. La loi qu'il cite au début, au verset 38, regardez, œil pour œil, dent pour dent, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi dite du talion dans l'Ancien Testament. On la retrouve en Exode, par exemple. Et cette loi n'a plus lieu d'être, il dit. En tout cas, il va expliquer justement ce qu'elle représente. Et un commentateur dit, il est vraiment important de comprendre que cette formule n'apparaît dans l'Ancien Testament que dans le contexte d'une procédure judiciaire. Et elle définit la peine encourue par le coupable. Elle ne peut pas être invoquée pour justifier la vengeance ou l'animosité personnelle. Œil pour œil, dent pour dent, c'est pas à appliquer dans nos vies personnelles. Alors plutôt que de cultiver des sentiments d'amertume, de vengeance, voici les réponses surprenantes qu'on va voir de Jésus face au mal qui nous est fait. Et on va voir en quoi c'est un commandement qui nous pousse à agir. Dans ce passage, il nous pousse dans nos retranchements, vraiment. Il veut que nous fassions plus que nécessaire, aller au-delà quand on nous demande quelque chose. Quitte à prendre des exemples radicaux, et c'est ce qu'il va faire justement, des exemples radicaux qui vont naturellement nous interpeller, interpeller les lecteurs, interpeller ceux qui vont être en bénéficiaire de cette justice. Regardez un peu plus près les versets 39 à 42. On peut voir que face aux méchants, il nous est dit de présenter aussi l'autre joue quand on veut nous gifler. Face à l'injustice, laisser encore notre manteau quand on nous prend notre chemise. Face aux obligations, si quelqu'un nous force à faire un kilomètre, en faire deux avec lui. Et face aux demandes, donner à celui qui nous demande. Et ce que je disais, évidemment, Jésus prend des images marquantes, volontairement. Ce passage n'est pas forcément à prendre au sens propre. Mais dans tout ça, il veut nous enseigner l'attitude, une attitude concrète à avoir. Il y a un commentateur qui souligne encore un point intéressant et qui dit, la phrase s'affichera, « Combien cette pensée est éloignée de l'esprit de vengeance et d'amertume qui s'attache si souvent à nos réactions. Pourtant, ce sont les attitudes qui devraient caractériser celui qui est rempli de l'esprit et dominé par la pensée de son roi. » Fin de citation. Nos réactions naturelles ne sont pas toujours bonnes. Dans les instructions que donne Jésus, il y a un appel à résister. Il ne veut pas qu'on laisse le mal s'exprimer sans rien dire ou sans rien faire, mais il nous appelle à réagir positivement pour interpeller la conscience de celui qui est fautif. Non pas subir passivement, et je veux qu'on l'entende bien, et on va le voir encore un peu plus tard. Il ne veut pas qu'on subisse passivement avec naïveté, mais il veut qu'on adopte un comportement qui va permettre de sortir de la spirale de la violence. Et on a tous été sûrement victimes de violence ici, ou d'injustice. Lorsque Jésus a été tué par les Romains, un officier romain qui a participé à sa crucifixion a dit juste après, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et ça m'interpelle toujours cette phrase, c'est une des phrases qui m'interpelle le plus dans la Bible. Je l'avais déjà citée, je crois d'ailleurs dans un message, mais elle m'interpelle parce que tout le comportement de la non-violence de Jésus a interpellé cet homme. Et il l'a reconnu au moment où Jésus a été mort. Toute cette justice, comment Jésus a appliqué, et par son comportement juste, sans vouloir répondre avec la violence, ça a interpellé cet homme. Et est-ce que nous, croyants, en tant que croyants, nous travaillons à avoir des actions marquées de l'œuvre de Dieu dans nos vies? Est-ce que nos actions, elles sont empreintes de cette justice et elles vont marquer ces personnes-là? Elles vont interroger. Alors revenons un instant sur notre histoire que je racontais au début, l'histoire de Diane, cette mère qui a perdu son fils, Tim, qui a été assassiné. Et voici les questions, je vais vous lire les questions qui revenaient régulièrement à elle. Dieu attend-il vraiment de moi que je pardonne à l'assassin de mon propre fils? Peut-on accorder le pardon à un meurtrier? Est-ce possible? Qu'est-ce que cela changerait si je faisais le choix de haïr cet homme? Et ce qui est fort en fait dans cette histoire, c'est que c'est sûrement l'une des situations les plus injustes que peut subir l'être humain. La perte d'un enfant. Pour ceux qui ont un enfant, j'imagine que vous comprenez encore plus. J'ai pas d'enfant, mais je me mets déjà à sa place et ça m'affecte. Mais la perte d'un enfant, je pense que c'est une des situations qui les plus injustes. Et ce que cette mère écrit est frappant et interroge clairement. Voici ce que Diane, cette mère, répond à la suite de ses propres questions. Ça va s'afficher également. Chaque homme, chaque femme se pose ce genre de questions à un moment ou à un autre de sa vie. Le monde dans lequel nous vivons est mauvais et déchu. Nous goûtons tous à ses fruits de déception et de douleur. Pour vous, c'est peut-être la maltraitance ou le fait d'être abandonné par vos parents. Un autre subira une agression contre lui ou un membre de sa famille. Un abus de pouvoir de la part d'un responsable d'église. Des critiques injustes émanant de membres de votre assemblée ou de collaborateurs peuvent vous pousser à chercher comment accorder le pardon. Personne n'échappe à ce problème. Fin de citation. Son témoignage et la façon dont elle le livre provoquent en nous des questions aussi. Où serait mon espérance dans ce genre de situation? Est-ce que j'aurais la force de pardonner? Moi, j'aime son honnêteté, en tout cas face à son histoire, face à ce qu'elle a vécu. J'aime son honnêteté, j'aime sa transparence qu'elle nous fait sur les questions qui sont en elle. C'est des questions pas faciles. Et parfois, on n'oserait pas sortir ces questions parce qu'on aurait peur d'être jugé. Mais c'est des questions réelles. Elle ne nous cache pas à quel point c'est difficile le chemin du pardon, le chemin d'aimer son ennemi. Dans notre première partie qu'on vient de voir justement, on vient de voir que Jésus avait une réponse surprenante face aux personnes qui ne nous voulaient pas forcément du bien. Je vous propose maintenant de voir notre deuxième et dernier point ensemble. Comment aimer lorsque ce n'est pas naturel? C'est la suite de ce que Jésus est en train d'enseigner. Il termine justement. Et je vais relire les versets 43 à 48. C'est Jésus qui toujours dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est la fin de la lecture encore. Alors avant d'aller plus loin, on pourrait faire une première remarque. Je ne sais pas si vous, en lisant, ça vous est apparu comme ça aussi, mais est-ce qu'il existait vraiment un commandement de détester ses ennemis dans la Bible ? Regardez, c'est pourtant ce que Jésus semble vouloir dire au verset 43. Je cite, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Et on peut se poser la question. Et un commentateur nous rappelle que si le commandement d'aimer son prochain était bel et bien enseigné dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on ne retrouve en revanche nulle part où il avait été dit de détester ses ennemis. Alors est-ce que Jésus se trompe ? Est-ce que Jésus cite mal la Bible ? Non. Au contraire, il y a plutôt des passages qui enseignent le peuple de Dieu à aimer l'étranger comme lui-même et aider son ennemi dans le besoin. On retrouve ça en Exode, par exemple, Exode 23. Alors, d'où Jésus tire-t-il tout ça ? En fait, il semblerait, selon ce commentateur qui nous dit ça, il semblerait qu'il fasse référence à une fausse doctrine qui circulait à l'époque dans une communauté juive. Et donc Jésus faisait référence à ce faux enseignement qui circulait et il dit « Vous avez appris qu'il a été dit. » Alors pour ma part, j'imagine que pour vous aussi, cet enseignement n'est pas naturel. Et on va voir justement en quoi l'enseignement n'est pas naturel et comment l'appliquer concrètement. Que ce soit pour l'époque comme pour aujourd'hui, aimer les personnes qui nous veulent du mal n'est pas naturel, n'est pas simple. Et ça va à contre-courant. Et remarquez que ce passage s'ajoute à celui que nous avons vu juste avant. Jésus amène une dimension supplémentaire d'ailleurs, aimer ses ennemis. On a l'impression qu'il nous demande toujours plus, Jésus. Je ne sais pas si c'est une impression, mais en fait c'est la réalité. Jésus nous demande toujours un effort supplémentaire. Il a des exigences hautes. Alors c'est quoi un ennemi ? On va essayer de définir le mot « ennemi ». Peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde et on met tous derrière le mot « ennemi » quelque chose de différent. Mais par « ennemi », il faut comprendre ceux qui ne nous veulent pas du bien. Ceux qui veulent nous nuire. Ça peut vraiment être à tout niveau, une connaissance, un collègue. Ça peut être un proche dans sa famille. Et j'ose le dire, une personne avec qui la relation est brisée, peut-être dans l'église. Voilà tout ce qui pourrait se trouver derrière l'ennemi dont Jésus parle. Alors, comment Jésus veut que nous aimions nos ennemis maintenant ? Eh bien, c'est un acte concret. L'amour est un acte concret. Ce n'est pas seulement un sentiment. Jésus parle vraiment d'un amour basé sur des actes aussi. C'est facile de dire « j'aime », mais c'est moins facile d'aimer. Alors pour avancer dans cette voie-là, il y a un élément indispensable que nous devrions prendre au sérieux, c'est le pardon. Je crois que c'est un des éléments centraux de la Bible. Et sans le pardon, il est impossible d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. Si on me posait la question « dis-moi en quoi la Bible montre la puissance de Dieu ?» Ben, l'une de mes réponses, évidemment, ça serait le pardon. Ça serait une des premières réponses qui me viendrait. Le pardon montre la puissance de Dieu. Car je crois que le pardon, dans nos relations humaines, va démontrer le poids du sacrifice de Jésus et le pardon qui nous a été accordé à nous. Alors, voici quatre raisons pour lesquelles je crois en la puissance fondamentale du pardon. Le pardon est au cœur du message de la Bible. Par sa mort, donc Jésus a pardonné les hommes et femmes qui se reconnaissaient pécheurs. Donc c'est la première raison, le pardon est au cœur du message de la Bible. La deuxième raison, le pardon amène la paix quand on l'applique avec sincérité. Et c'est une réalité quand on applique ce pardon, on voit la paix qui vient et on voit la puissance de Dieu là-dedans. La troisième raison, il y a bel et bien un témoignage réel de la puissance de Dieu qui se manifeste parmi les croyants qui l'ont pratiqué et qui le pratiquent. Et ce n'est pas une exclusivité à certains croyants, nous sommes tous appelés à pardonner. Il y a un témoignage réel de la puissance de Dieu. Et la quatrième raison, c'est que le pardon interpelle le meurtrier. Regardez le meurtrier de notre histoire, par exemple. Ça interpelle, ça va interpeller. N'importe qui va recevoir ce pardon va se demander « Mais pourquoi on me pardonne? Pourquoi on m'aime ?» Ça interroge celui qui va en être bénéficiaire et ça va à contre-courant de ce à quoi il s'attendait. Ces quatre raisons déjà pourquoi le pardon démontre une certaine puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Et il y en a d'autres, et je vous en trouverai certainement d'autres. Et moi j'ai une confidence à vous dire, tout le monde doit profiter de ce pardon. Tout le monde. Le pardon, il est offert en Christ, et c'est pas pour que certaines personnes n'en bénéficient pas. Christ n'a pas fait une sélection. Il s'est donné pour tous les hommes, tous ceux qui entendront le message. Et bien évidemment, à la fin, ceux qui auront répondu à cet appel auront bénéficié de son pardon. Alors j'entends résonner en moi des paroles de personnes proches, des non-croyants, des proches non-croyants autour de moi qui accusent un peu la Bible de créer des comportements de naïveté. Et je crois que aimer son ennemi, c'est tout le contraire de la naïveté. L'exemple frappant justement de ces personnes qui me disent la Bible appelle à la naïveté, ça appelle à faire un peu des personnes sans réflexion et voilà. L'exemple frappant, c'est de tendre l'autre joue quand on nous a giflé. Je sais pas si vous, à première lecture, vous le prenez un peu. On doit être des victimes, quoi. Mais je crois qu'il faut bien comprendre ce passage. Là, ce qui nous est demandé, déjà, on le disait tout à l'heure, c'est pas nécessairement apprendre au sens propre. C'est justement une attitude à avoir. Mais il y a aussi cette idée du pardon. Nous pouvons pleinement aimer quelqu'un dans nos actes, même s'il continue de vouloir nous nuire. C'est pas incompatible. Mais entendez bien une chose, et je veux insister là-dessus, s'il est nécessaire de prendre des dispositions particulières, il faut évidemment les prendre. Je pense par exemple dans le cadre d'une personne qui serait en danger physique, une personne violente en face de nous, bien évidemment, prenez ces dispositions. Réfugiez-vous, fuyez cette personne. Mais ce n'est pas incompatible de ne pas développer des sentiments d'amertume et de rancœur. Je prends l'exemple par exemple du roi David dans la Bible, plusieurs fois, dans les psaumes, combien de fois il est en train de fuir ses ennemis. Et pourtant, il arrive à pardonner. Jésus n'a jamais appelé à un acte masochiste en disant de tendre l'autre joue. Mais il a plutôt appelé à une attitude de non-vengeance, comme certains pouvaient le croire en appliquant la loi du talion. Il a vraiment remis le sens de cette loi. Pardonner, ce n'est pas juste fermer les yeux, oublier ou devenir gentil. Pardonner, ce n'est pas cultiver de rancœur en nous. Mais pardonner, c'est avant tout un acte personnel qui vient du cœur. Nous pouvons pardonner pleinement à quelqu'un qui nous veut encore du mal. Bien évidemment, le souhait de Dieu, c'est que ça débouche par-dessus tout sur une réconciliation entre les deux parties. Mais ce que notre texte enseigne, c'est que déjà, nous devons apprendre à aimer l'ennemi et pas attendre qu'il y ait des bonnes dispositions pour le faire. Nous devons faire ce premier pas. Comme nous le disions tout à l'heure, nous allons certainement interpeller en pardonnant de cette manière et en aimant l'ennemi. Alors on va voir un dernier point ensemble justement dans notre deuxième partie. Aimer son ennemi, c'est ressembler à Dieu. Il s'avère que les Juifs de l'époque n'avaient pas beaucoup de mal à aimer ceux qui les aimaient. C'est pas difficile d'aimer ceux qui nous aiment. C'était le cas aussi des Juifs. Mais quand on y pense, cette façon de faire est tellement simple. Aimer devient un acte conditionnel. Si un tel m'aime bien, j'irai vers lui et je l'aimerai sans problème. Mais moi, j'ai deux questions à vous poser maintenant. Quel est le risque majeur d'une relation conditionnelle? Et est-ce que c'est comme ça que Dieu a aimé ses enfants? Deux questions auxquelles on va répondre maintenant. Mais la première question, on va y répondre tout de suite. L'un des risques principaux de ce type de relation, c'est qu'elle ne repose finalement pas sur des fondements stables. Et je pense que plusieurs d'entre vous ont pu vivre concrètement ce que je décris là. Le jour où une personne qui vous est chère devient différente avec vous, qu'elle vous en veut, qu'elle vous rejette, est-ce que cela signifie que c'est la fin de la relation avec elle ? Si oui, c'est que vous aimiez cette personne à la condition qu'elle vous aimait. Et nous venons de voir l'un des risques majeurs d'une relation conditionnelle, c'est qu'elle se brise dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus. La deuxième question, est-ce que Dieu a aimé comme ça ses enfants ? Est-ce que c'est de la manière dont Dieu nous a aimés ? Et je crois que vous vous attendez sûrement à la réponse. La réponse, c'est non. Il n'a pas attendu d'aimer ceux qui l'aimaient. Il a aimé ses ennemis. Littéralement. Le terme est fort, mais c'est l'état de tous les hommes, de nous, face à Dieu. Nous étions ses ennemis avant de nous donner à lui. Et il nous a aimés en premier. Heureusement, d'ailleurs. Ce n'est pas un amour conditionnel, mais un amour inconditionnel de Dieu. Et c'est cet amour qu'il veut qu'on apprenne à développer, justement, quand il dit d'aimer nos ennemis. Ce n'est pas un amour avec des conditions. Si nous aimons, alors nous serons sauvés. Non. Mais c'est un amour sans condition. Il nous a aimés, il nous a sauvés, alors que nous étions encore des pécheurs. C'est un verset, Romains 5, 8. Il nous a sauvés alors que nous étions encore des pécheurs. Et c'est une réalité qui m'a personnellement longtemps dépassé. Et je dois dire, elle me dépasse encore. Je ne suis pas le meilleur quand il faut aimer son ennemi, aimer sans condition. Mais j'apprends. Je me plante. Parfois, j'avance. Ça nécessite de ne pas se considérer constamment comme une victime, mais nous rappeler aussi notre état d'offenseur face à Dieu. C'est de cette façon que nous allons être les fils de notre Père Céleste, comme il est dit au verset 45, ou encore être parfaits comme il est parfait, au verset 48. C'est en aimant, en priant et en voulant le bien de nos ennemis que nous allons pouvoir ressembler à Dieu, à notre Père. Alors rappelez-vous l'histoire de Diane et de son fils Tim que j'ai évoqué au début. C'est exactement cette réalité qui a motivé cette famille dans la voie de l'amour et de ne pas développer des sentiments de rancœur et d'amertume. Diane, qui est l'auteur du livre, justement, elle explique qu'il est inconcevable que nous, qui avons reçu un pardon immérité, puissions envisager de ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je trouve la prise de conscience est incroyable, incroyable. Je ne sais pas si j'aurais les mots comme ça pour le dire, mais j'aimerais bien, j'espère, s'il m'arrive une épreuve comme ça. Il est inconcevable que nous, qui avons reçu un pardon immérité, puissions envisager de ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés. Elle reconnaît aussi que ce drame lui a permis de se plonger davantage dans les Écritures, ce qui l'a amené peu à peu à trouver le chemin du pardon pour cet assassin. J'ai bien dit peu à peu, elle ne le cache pas, c'est un long chemin difficile. C'est pas naturel. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus l'enseigne. Ce n'est pas naturel. Et enfin, elle décrira même plusieurs raisons pour lesquelles elle ne veut surtout pas garder d'amertume ni de rancœur. Elle y apporte des explications sur ce qu'elle a appris à propos du pardon et ce qu'elle a dû accorder. Elle y apporte des explications sur le pardon qu'elle a dû accorder à cet homme. Alors, je voudrais dire quelques mots pour conclure ce matin. Avec tout ce qu'on a vu, en premier lieu, je crois que nous devrions nous souvenir d'une chose. La plus grande victime d'une injustice à l'échelle planétaire reste et restera Jésus-Christ. Il a été la victime d'un immense complot contre lui, mais cette injustice qu'il a subie l'a conduit à accomplir la volonté de Dieu. Ceux qui placent leur foi dans cet homme acquièrent le pardon pour toutes leurs fautes. Et ont dès cet instant la vie éternelle. C'est la promesse qui nous est faite dans la Bible. Et vous ne trouverez pas de plus belle promesse que celle-ci. Je vous laisse avec ces questions aussi, les jours à venir. Qu'est-ce que tout ce qu'on a vu ensemble ce matin nous pousse à ressembler encore plus à Dieu et donc à Christ ? J'imagine bien qu'il y a parmi vous certains qui vivent des situations compliquées de pardon. Et je veux vraiment compatir avec vous aussi. Des personnes qui sont parfois des situations de pardon qui sont parfois mises de côté aussi depuis des années. Ça peut parfois bouillonner intérieurement et vous êtes tenté de vouloir répondre par l'amertume, la vengeance. Mais il existe justement une autre voie qu'on a vue ce matin, qui peut nous libérer de ce poids par notre attitude de l'amour inconditionnel. Et c'est un amour qui va réellement marquer la personne en face de vous. Évidemment, ça va demander des efforts, comme on l'a vu et ce qu'on a vu avec Diane. Ça va demander des efforts, c'est un chemin long qui prend parfois des années, parfois des semaines, des mois, mais parfois aussi des années. Et il faut remettre tout ça avec sincérité. Et c'est dans tout ça qu'on va ressembler à Dieu le Père. Et je vous invite vraiment, c'est notre prière ce matin, c'est qu'on puisse ressembler à Dieu dans tout ça. Je vais juste terminer par la prière. Notre Dieu, nous te remercions pour ces paroles que tu as laissées en présence de cette foule et de tes disciples sur cette montagne. Père, merci parce que tu as de belles exigences pour nous. Tu veux que nous soyons parfaits comme toi. Et on reconnaît tout le travail qu'il y a, Seigneur. Je vois le chantier dans ma propre vie. Mais je sais que tu es là, que tu désires qu'on te rende gloire au travers de tout ça. Aide-nous à aimer d'un amour qui ira à contre-courant, d'un amour qui va certainement marquer, Seigneur, les esprits, qui va marquer les personnes en face de nous. Père, c'est notre prière ce matin qu'on puisse te ressembler davantage. Amen.